Alors, on va commencer notre 32e leçon de notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va terminer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, donc la réforme en Suisse allemande. On avait parlé surtout du personnage d'Ulrich Zwingli, qui a vécu entre 1484 et 1531. Donc ce soir, ça va être la deuxième partie. Alors, dans notre dernière leçon, on avait vu que le Seigneur avait étendu la réforme en Suisse allemande de façon parallèle et indépendante de celle de l'Allemagne. Un autre grand réformateur avait été préparé providentiellement et prendrait le leadership de la réforme de ce pays, Ulrich Zwingli. Donc, on avait vu un petit peu le début de son histoire la semaine dernière. On continue. Alors, le réformateur courait d'autres dangers. Son intrépidité, sa franchise lui avait fait de nombreux adversaires qui n'en voulaient rien de moins qu'à sa vie. Un soir, qu'avec ses amis, il conversait paisiblement chez lui, quelques bourgeois entrèrent brusquement dans la chambre et demandèrent d'une voix agitée : « Y a-t-il de bons verrous à votre porte ? Tenez-vous sur vos gardes cette nuit. » Les alertes pareilles étaient fréquentes. Tous avaient des armes sur eux et une patrouille circulait dans la rue pour protéger la maison, ceci contre le gré de Zwingli, qui savait qu'une puissance bien plus forte que celle de ses dévoués partisans veillait sur lui sans relâche. Une autre fois, il reçut une lettre anonyme ainsi conçue. Des embûches vous guettent de tous les côtés. On a préparé un poison violent destiné à vous ôter la vie. Ne prenez aucune nourriture hors de chez vous. Ne mangez pas de pain, sinon celui qu'aura cuit votre propre cuisinier. Il existe dans les murs de la ville une association qui s'est constituée dans le but express de vous mettre à mort. Je suis renseigné de toute première main. Ne doutez pas que je sois votre ami. Vous connaîtrez mon nom plus tard. Le lendemain, comme un de ses familiers les plus chers entrait dans sa maison, un passant l'arrêta pour lui dire « Fuyez la demeure de Zwingli, un drame va s'y passer. » Mais Dieu veillait sur son serviteur. Aucun mal ne l'atteignit. Au contraire, il n'en poursuivit que plus hardiment sa tâche. Sans avoir encore rompu ouvertement avec Rome, il persistait dans sa méthode, qui consistait à suivre au pied de la lettre les enseignements de l'Écriture. À mesure qu'il construisait de la sorte un édifice entièrement nouveau et d'une solidité inébranlable, les fausses doctrines s'écroulaient d'elles-mêmes. Le jour vint pourtant où la rupture se produisit. Plusieurs personnes enfreignaient depuis quelque temps déjà l'ordonnance catholique qui prescrit l'abstinence des viandes pendant les jours de carême. De là, grand scandale. Dénonciation aux magistrats, incarcération des coupables. Zwingli prit leur défense et publia un écrit dans lequel il démontrait par la Bible que cette pratique inventée par Rome est en opposition flagrante avec les commandements de Dieu, comme on peut le voir dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. L'évêque de Constance, duquel dépendait Zurich au point de vue ecclésiastique, adressa au conseil une plainte officielle sur les faits qui venaient de se produire. Sans qu'il ne nommât personne, on sentait bien que c'était Zwingli qui l'avait en vue. Le réformateur releva le gant et, désireux d'amener une situation franche, il pria le conseil de convoquer une conférence à laquelle, espérait-il, l'évêque assisterait en personne. Le conseil donna son approbation à cette proposition. Une émission pareille de l'autorité civile dans le domaine religieux peut étonner à bon droit. Elle n'est nullement conforme à ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'était un fruit de la position anormale, antichrétienne, des évêques revêtus par l'Église d'un pouvoir temporel dont les magistrats laïcs allaient les dépouiller. La papauté, qui avait fait servir à son établissement les princes et la magistrature rencontra dans cette lutte ces mêmes princes et cette même magistrature qui avaient été pour elle un piédestal, unis dans nombre d'États pour la renverser. Zwingli, malheureusement, ne comprit pas que le chrétien doit rendre les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu, comme on peut le lire dans Matthieu 22, 17, Marc 12, 14, Luc 20, 22. Il n'était pas seulement serviteur du Seigneur dans le domaine spirituel. Il y avait en lui l'étoffe d'un homme d'État et il ne réussit pas à s'en dépouiller. Il savait considérer avec sang-froid les circonstances données, mais croyait pouvoir et devoir recourir au chef du gouvernement pour faire aboutir tant la réforme religieuse que la réforme sociale, morale et politique qu'il envisageait. Aussi a-t-il bien saisi son caractère, le sculpteur moderne qui l'a représenté, la Bible et le glaive à la main. La Bible, base ferme sur laquelle il s'appuyait pour la tâche spirituelle que Dieu lui avait confiée, le glaive, symbole de la puissance temporelle à laquelle il croyait devoir s'unir. Erreur funeste et funeste aveuglement, dont bientôt il allait porter la peine. La conférence ou dispute de Zurich eut lieu en janvier 1523. Plus de 600 personnes y prirent part. Parmi elles, Faber, grand vicaire de l'évêque, celui-ci ayant refusé de venir. Au début de la discussion, Zwingli prononça la déclaration suivante. « J'ai prêché que le salut se trouve en Christ seul. On me traite, à cause de cela, dans toute la Suisse, d'hérétique, de séditieux. Je suis ici au nom de Dieu. Je conjure mes accusateurs que je sais être dans cette salle de se lever et de me faire droit au nom de la vérité. » Faber rétorqua qu'il n'était point là pour discuter, mais pour juger de l'état des choses et rendre compte à son supérieur. Zwingli renouvela son abjuration, mais personne ne répondit sérieusement. Ensuite, Faber reprit la parole et, sans aborder les matières controversées, proposa de tout renvoyer à un prochain concile, suggestion faite déjà maintes fois en Allemagne, ou bien de s'en remettre à l'arbitrage de l'Université de Paris ou de celle de Cologne. Zwingli demanda pourquoi. « N'avons-nous pas en main, dit-il, la parole de Dieu, écrite en hébreu, en grec, en latin, langue que nous connaissons tous les uns ou les autres? Son autorité est illimitée. Celle des universités ne vaut que par les hommes qui les composent. Cette proposition rejetée, Faber cita le cas d'un curé, condamné à la prison pour n'avoir pas prêché la Vierge et les saints, et qui, grâce à l'intervention du vicaire, était revenu en arrière. Faber omit de dire que c'était bien plutôt sous l'effet de la torture. Comme on le pressait de reproduire les arguments qu'il affirmait avoir avancés, il ne put alléguer que l'autorité de l'Église et des conciles, mais ne cita pas un seul texte biblique, et pour cause. La discussion tourna à l'entière confusion des catholiques, et le jour même de la clôture, le conseil rendit une ordonnance, au terme de laquelle les assertions de Zwingli, n'ayant été ni attaquées ni réfutées, il recevait l'autorisation de continuer à prêcher, comme par le passé, et défense était signifiée à tous les ecclésiastiques du territoire de ne rien entreprendre ou de ne rien enseigner qu'ils ne fussent en mesure de démontrer par la parole de Dieu. À la suite d'une seconde dispute qui eut lieu en automne de la même année, le conseil enjoignit à Zwingli de composer une institution chrétienne pour ceux de ces ecclésiastiques dont la culture insuffisante venait de se manifester. Ils étaient invités par surcroît à engager leur joie à recevoir la réforme, prétention singulièrement absurde, car on ne mentionnait pas même la nécessité de la conversion. On voit, une fois de plus, à quoi aboutit l'intrusion de la politique dans un domaine où il ne s'agit que des relations de l'homme vis-à-vis de Dieu. À Pâques 1525, la messe fut définitivement abolie et avec elle, l'absolution, les pèlerinages et les processions, la confession, l'extrême-onction. On dut enlever des églises, les reliques, les autels, les images et les idoles, les orgues. D'autre part, des mesures furent édictées contre les jeux, les mascarades, le luxe dans les vêtements. Les moines quittèrent leur monastère, les nonnes furent libres d'y rester ou de partir. Les ecclésiastiques reçurent le droit de se marier et Zwingli, suivant l'exemple que lui donnaient quelques-uns d'entre eux, épousa une veuve, Anna Reinhardt. Elle fut, pour le réformateur, une compagne fidèle et vaillante. Comme Luther, Zwingli vit la nécessité urgente d'instruire la jeunesse. Il fonda à Zurich même une école pour laquelle il eut la bonne fortune de pouvoir recruter un corps enseignant d'élite. Il publia aussi un petit livre où il indiquait à grands traits, mais avec sérieux et profondeur, les buts et les moyens essentiels de l'éducation de la jeunesse chrétienne. On peut dire qu'à ce moment, la réforme était accomplie à Zurich, avec les réserves qui viennent d'être faites sur la profondeur et la solidité du travail accompli. Mais le Seigneur y mit la main, et malgré nombre de faiblesses, l'œuvre établie a subsisté à travers bien des obstacles. Le gouvernement avait beau affirmer dans une lettre adressée au pape, et sur laquelle celui-ci ne se trompa point, que Zurich n'appartenait pas à la secte luthérienne. Il avait beau déclarer qu'il se réglait uniquement sur la pure parole de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le fait éclatait au grand jour qu'il avait abandonné les anciennes croyances. Par là même, il se rangeait aux thèses rédigées par Zwingli pour la première dispute de Zurich, où il affirmait que l'Évangile, à force de loi, sans avoir besoin d'être accrédité par l'Église, que le chef de l'Église est le Christ et nul autre, qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, que le salut ne réside que dans la foi en lui, que la puissance civile tire sa force et sa légitimité de la doctrine du Christ, que par conséquent, tous les chrétiens lui doivent obéissance, pour autant qu'elle n'ordonne rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. On ne peut que se réjouir de voir triompher ainsi les principes de l'Évangile, mais comme ailleurs, les éléments humains déployait beaucoup trop d'influence, si bien qu'on serait tenté de parler de réforme politique tout autant que de réforme religieuse. Cette tendance regrettable s'accentua en présence de l'attitude franchement hostile des cantons catholiques. Voyant s'effondrer les croyances auxquelles ils vouaient un attachement indéfectible, tous les moyens paraissaient bons pour les sauver du désastre. Une lutte à main armée n'effrayait pas. Très certainement, si les cantons évangéliques avaient regardé au Seigneur pour obtenir de lui et de lui seul appui et direction, il aurait répondu à leurs instances. Mais les magistrats ne virent d'autre parti à suivre que d'imiter leurs adversaires en s'engageant sur le même chemin qu'eux. C'était donc la guerre civile à brève échéance. Pendant ce temps, les esprits atteignaient un degré d'exacerbation toujours plus intense. Accusations, basses calomnies pleuvaient de part et d'autre. Il faut dire pourtant qu'au début de cette période d'hostilité, la conduite de Zurich fit vraiment honneur à l'esprit de modération et d'indépendance de ses magistrats. En proclamant la réforme, le canton s'isolait de ses confédérés. Ceux-ci, en effet, étaient résolus à tout mettre en œuvre pour enrayer les progrès de ce qu'ils appelaient l'hérésie. Leur premier objet était de faire saisir Zwingli s'ils s'aventuraient sur leur territoire. En attendant Ils commirent divers actes de terrorisme en vue de semer l'effroi dans le camp ennemi. La première victime de leur rigueur fut un cordonnier du nom de Oettinger qui, banni de Zurich pour avoir abattu un crucifix avant les ordonnances de 1525, avait commis l'imprudence de s'établir sur la frontière du comté de Baden. On lui tendit un piège, il fut arrêté et la diète helvétique le condamna à mort. Les 12 cantons envoyèrent à Zurich une délégation pour presser cette ville de s'abstenir de toute innovation. Le conseil répondit avec fermeté. Nous voulons rester fidèles à nos confédérés, mais en ce qui touche à la parole de Dieu, nous ne pouvons rien céder. Pour s'assurer le concours actif des habitants de tout le territoire, le conseil informa les communes campagnardes de ce qui s'était passé. Toutes lui donnèrent raison. La diète n'osa pas marcher sur Zurich pour éteindre le foyer de la réforme, mais elle se vengea en punissant les novateurs dont elle put s'emparer. En somme, dans toute la Suisse, on se posait cette question. Que faut-il faire? Que va-t-il arriver? Même les esprits les plus aveuglés, surtout dans les conseils, sentaient le besoin d'agir. La démoralisation des prêtres provoquait partout des arrêts, tendant à y porter remède. Ces arrêts des magistrats restaient sans effet. Impossible de se faire une idée de l'ignorance répandue dans les masses et chez les ecclésiastiques. Un moine déclama un jour contre Luther, Zwingli et tous leurs adhérents, s'écriait du haut de la chaire « On a inventé, il y a quelque temps, une nouvelle langue, mère de toutes les hérésies, le grec. » C'était incroyable. C'est dans cette langue qu'est imprimé un livre, le Nouveau Testament, qui contient beaucoup de choses fort dangereuses. À présent, il se forme un autre langage, l'hébreu. Quiconque l'apprend devient aussitôt juif. Wow! Mais depuis la conférence de Zurich, Faber ne cessait de se demander quels moyens employer pour étouffer définitivement la réforme. L'expérience lui prouvait qu'on ne prêtait nulle attention aux injonctions des évêques, que les publications ne servaient à rien, attendu que les réformateurs dépassaient de beaucoup leurs adversaires par leur talent dialectique et littéraire, qu'en somme, il n'existait plus aucun espoir de réussite tant que Zwingli vivrait. Or, sa popularité et son influence croissaient de jour en jour. Une catastrophe inattendue encouragea chez les catholiques la conviction qu'il fallait agir sans retard et avec énergie. À la bataille de Pavie, entre François Ier et Charles Quint, l'armée française subit une défaite complète à tel point que le roi tomba prisonnier entre les mains du vainqueur. Dans ses rangs se trouvaient quelque 10 000 Suisses, dont la plupart furent tués ou pris. Rarement pareil désastre avait frappé le pays. Partout, on n'entendait que pleurs et lamentations. Il y avait peu de familles où l'on eut à déplorer la disparition d'au moins un de ses membres. On se rappelle combien Zwingli avait lutté contre le service mercenaire. L'événement lui donnait raison et augmentait d'autant son crédit au plus grand déplaisir de ses ennemis. Pour le prendre, ceux-ci résolurent de convoquer une dispute religieuse à Baden, malgré les instances des Zurichois qui désiraient vivement qu'elle se tînt dans leur ville. Les 6 cantons catholiques, Lucerne, Uri, Zwick, Unterwald, Zug et Soleur, étaient représentés. Berne se joignit à eux, mais sans grande conviction. Peu après, ce canton allait adhérer à la réforme. On convoqua spécialement Zwingli. Mais le souvenir de Jean Hus, dont le sauve-conduit n'avait pas été respecté, le supplice récent d'un certain Wirth, le fait qu'on avait brûlé Zwingli en effigie à Lucerne et ses écrits à Fribourg, enfin que son arrestation avait été décrétée par la diète, Toutes ces raisons rendirent le conseil de Zurich justement défiant. Et il refusa à Zwingli la permission de se rendre à Baden, ne voulant pas le voir exposé à un guet-apens. Puis, au jugement d'un contemporain, un acte de violence dont Zwingli aurait été victime eut sans doute entraîné Zurich à une action belliqueuse. Les catholiques étaient représentés par leurs champions les plus brillants, les évêques de Lausanne, de Constance, de Coire et de Bâle y déléguèrent leurs plus habiles docteurs. Le fameux Eck, qui avait disputé contre Luther, ainsi que Faber, y jouèrent le rôle principal. Au colampade de Bâle remplaçait Zwingli, avec lequel il était étroitement lié. Berthold Haller de Berne était aussi présent, mais il n'agit que de façon très effacée. Au surplus, Zwingli put suivre de près les débats. Quelques jeunes gens, notamment le Valaisais Thomas Plater, faisaient chaque soir le trajet de Baden à Zurich, environ 20 km, pour mettre le réformateur au courant de ce qui s'était dit pendant la journée. Il leur faisait part de son point de vue, sur lequel Ocolampad était informé le lendemain matin de bonne heure, avant l'ouverture de la séance. Les principales thèses catholiques portaient sur les points combattus par les réformés. Le vrai corps et le vrai sang de Christ sont présents dans le sacrement de la Seigne. Ils sont véritablement sacrifiés dans la messe pour les vivants et les morts. On doit invoquer Marie et les saints, adorer les images, croire au purgatoire, à la purification du péché par les eaux du baptême, etc. Eck prit la parole le premier, du ton d'un homme sûr de la victoire et sans ménager de vraies insultes à l'adresse des réformés présents. Ecolampad lui répondit sans proférer une seule injure. « Le docteur Eck, dit-il, se vante d'être ici par ordre du duc de Bavière. Moi, je me fais gloire d'y être au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, aux uns occasion de chute, aux autres folie, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient en lui. » 1 Corinthiens 1, verset 23-31. Ocolampad avait fort à faire à tenir tête aux champions de la cause catholique. Mais le courage dont il fit preuve, le calme et la patience dont il ne se départit jamais au milieu des provocations les plus violentes, forcèrent le respect de ses contradicteurs eux-mêmes. Peut-être était-il mieux à sa place à Baden que son bouillant ami, dont la fougue aurait plus d'une fois suscité de violents orages qui n'auraient nullement servi la cause qu'il avait à défendre. Leur extérieur trahissait la différence de leur caractère. Le visage de Zwingli, son maintien fier, décelait l'homme décidé, prêt à agir envers et contre tous avec la dernière énergie. Ecolampad se faisait remarquer par la modestie de sa tenue, la douceur, la longanimité, très essentielle à son caractère, se lisait dans son regard paisible, sa physionomie calme et ferme. Tandis que les champions de Rome affichaient une grande pompe, organisaient presque chaque jour de somptueux repas, Ecolampad, retiré dans une petite chambre, se consacrait à la prière et à l'étude, l'intervalle entre les discussions. D'une manière générale, les évangéliques se firent remarquer par leur connaissance approfondie des Écritures. Les catholiques, par l'habileté de leur dialectique. Eck, acculé par son adversaire, finit par s'écrier « Je m'en tiens au saint, quand même je n'aurai pas pour moi l'Écriture. » Chacun pouvait prévoir l'issue de ce tournoi orageux, dirigé exclusivement par les adversaires de la Réformation. Extérieurement, les catholiques l'emportèrent haut la main, du fait qu'ils formaient une très forte majorité. Mais une victoire pareille ne convainc que ceux qui l'ont remportée. Le catholicisme ne gagna point de terrain à la suite de la dispute de Baden. Les procédés utilisés par ces champions les desservirent même auprès de leurs partisans, pour peu qu'ils fussent sincères. Quelque temps après, Zwingli put accepter une invitation que lui adressait le landgrave Philippe de Hesse, un des plus chauds défenseurs de la réforme en Allemagne. Il désirait grouper les forces évangéliques et amener, si possible, les réformateurs à une entente sur les points déjà nombreux qui les séparaient. Luther et Melanchthon étaient présents. On tomba d'accord sur 14 articles, mais sur le 15e, ce fut impossible. Il s'agissait de la question si controversée de la Seine. Luther resta irréductible et alla jusqu'à refuser de reconnaître comme frères ceux qui ne partageaient pas son opinion. « Vous avez un autre esprit que nous », osa-t-il dire. Zwingli versa des larmes sur cette opiniâtreté, mais en vain. Jusqu'à la fin, Luther refusa de considérer Zwingli comme un collaborateur à une seule et même œuvre. Avant d'en venir au dernier moment de la vie de Zwingli, il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur ses relations de famille. Très attaché à son foyer, il avait en sa femme une compagne excellente et trouvait auprès d'elle une atmosphère paisible où il se reposait des luttes de la vie du dehors. De son premier mariage, Anna Zwingli avait eu plusieurs enfants, déjà adultes. Elle en donna aussi plusieurs à son second mari, mais deux seulement lui survécurent. Bien qu'il eût quitté de très bonne heure la vallée de Toggenburg, le réformateur conserva un profond attachement à son village natal, comme aussi à ses parents, à sa sœur et à ses cinq frères. Il aurait désiré ardemment les voir tous suivre le chemin où le Seigneur l'avait conduit lui-même. Cette joie lui fut refusée. Ses frères lui témoignèrent même une vive hostilité lorsqu'ils apprirent la nouvelle de sa conversion et lui en firent d'amères reproches. « Quelle honte ce serait pour toute notre famille, lui écrirent-ils. Quelle ignominie si tu étais attaché au poteau comme hérétique ou bien avais à subir telle autre mort infamante. Et quel profit en retirerions-nous les uns et les autres? » Zwingli leur répondit par une lettre admirable, toute imprégnée d'amour chrétien. En voici quelques fragments. « Pour ce qui me touche personnellement, je n'ai pas le moindre souci. Voici longtemps que j'ai remis entre les mains de Dieu ma personne et tout ce qui me concerne. Soyez certains qu'aucun mal ne saurait m'atteindre sans que je l'aie déjà pris en considération. Je suis prêt à l'affronter. Je sais que la puissance du Seigneur s'accomplira dans mon infirmité, car quand je suis faible, alors je suis fort. » On peut le lire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. « Je connais également la puissance de ceux avec lesquels j'ai entrepris de lutter, mais je dis pour moi ce que Paul disait pour lui. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. » Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Quant aux craintes que vous éprouvez pour mon renom, pour celui de notre famille, écoutez ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, qui veut aussi être le vôtre et dont je me considère le soldat. Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront et quand ils vous retrancheront de leur société et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. » Luc 6, verset 22-23. Apprenez donc par là que plus mon nom sera entaché d'infamie dans ce monde, plus l'amour du Seigneur et plus il sera honoré aux yeux de Dieu lui-même. Christ, le Fils de Dieu, a consenti à verser son sang pour notre salut. Ce serait donc un soldat bien lâche et indigne du nom invoqué sur lui que celui qui ne sacrifierait pas joyeusement sa vie pour son chef glorieux. Connaissant celui qui l'a racheté, jetterait-il son bouclier loin de lui, au fort de la mêlée, et songerait-il à la fuite? Vous êtes mes frères dans la chair, et je vous reconnais comme tel. Si vous vous refusez à être mes frères en Christ, je ne puis que m'en affliger très douloureusement, car la parole de Dieu nous enseigne à quitter même notre père et notre mère s'ils cherchent à nous détourner du chemin du Seigneur. Mettez toute votre confiance dans la parole de Dieu. N'hésitez pas. Ayez entière assurance. Déposez aux pieds du Sauveur toutes vos tristesses, tous vos mécomptes. Répandez vos prières devant lui. Auprès de lui seul, cherchez joie, paix, rémission de vos péchés. Unissez-vous à Christ d'un lien si étroit, si intime, qu'il soit un avec vous et que vous soyez un avec lui. Dieu veuille que vous vous remettiez à sa protection paternelle, que vous vous laissiez conduire par son esprit et enseigner par lui. Il vaut la peine d'entendre rappeler toutes ces précieuses vérités sous la plume du grand réformateur. On voit combien il était merveilleusement enseigné de Dieu, quelle joie il avait éprouvée à travers lui-même le chemin du salut et quel plaisir l'étreignait d'en faire participer d'autres. Il connaissait fort bien la communion dans la grâce par la foi au sacrifice de Christ. S'il avait bien mieux compris ce qu'est la puissance de la résurrection, il aurait moins été ce que certains de ses biographes appellent le héros chrétien, le chrétien patriote. Il était bon de le voir sous le jour du chrétien pur et simple, au moment où il s'engage de plus en plus dans un chemin où il semble avoir oublié ce qu'il avait appris au commencement. D'année en année, la discorde entre confédérés devenait toujours plus aiguë, s'aggravant en raison directe des progrès réalisés par la Réforme. Bâle et Berne y avaient accédé, d'autres villes encore. Les idées nouvelles réagissaient forcément sur la politique et entraînaient chaque jour des conséquences imprévues. Aussi, dans les cantons catholiques, conservateurs à outrance, comme on l'est volontiers dans les régions montagnardes, on manifestait d'autant plus résolument son attachement aux traditions ecclésiastiques, dont la chute paraissait devoir détruire les fondements même de la vie publique et des existences particulières. L'antagonisme devenait toujours plus irréductible. Les partis oubliaient les scrupules qu'ils pouvaient avoir nourris jusque-là, et ils ne visaient plus qu'à un seul but, le triomphe de leur point de vue religieux et la défense de leurs intérêts politiques et matériels. Zwingli avait le cœur obsédé de sombres pressentiments. Chose triste à dire et qui montre à quel degré les préoccupations matérielles avaient maîtrisé son esprit, jadis si étroitement imbu de la parole de Dieu, il semblait avoir complètement dévié du sentier de la foi. Il connaissait pourtant ces mots du psaume 118, versets 8 et 9. « Vaut mieux mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Vaut mieux mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier dans les principaux. » Il en était venu à occuper à Zurich une situation incomparable, mais bien peu en rapport avec celle d'un serviteur de Dieu, uniquement consacré aux intérêts de son Seigneur et Maître. Exerçant une réelle autorité sur les conseils de la ville, c'était la personnalité dirigeante, aussi bien dans les affaires politiques que dans le domaine ecclésiastique. Son opinion prédominait surtout dans les relations extérieures. Il rédigeait les actes les plus importants, car il prêtait son concours au greffier de la ville, homme peu cultivé, et dont le style n'avait ni la précision, ni l'élégance désirable. Quelqu'un a dit de lui qu'en sa seule personne, il était bourgmestre, chancelier et conseil. Mais ce qu'il y a de plus regrettable, c'est qu'il en venait à prêcher la lutte ouverte contre les ennemis de la Réforme, la guerre, s'il le fallait. La paix, écrit-il à cette époque, pour laquelle quelques-uns font tant d'efforts, est la guerre à laquelle nous poussons, et la paix, car nous n'avons soif du sang de personne, mais nous voulons couper le nerf aux oligarques. Si nous ne réussissons pas, ni la vérité évangélique, ni ses serviteurs ne seront en sûreté chez nous. Il n'y a rien de cruel dans nos intentions, mais nous aspirons à servir les intérêts de l'amitié et de la patrie. Nous espérons sauver ceux qui périssent à cause de leur ignorance. Nous cherchons de toutes nos forces à maintenir la liberté. Singulier langage chez un homme qui aurait dû, plus que tout autre, à cause de sa connaissance de l'Écriture sainte, se rappeler à lui-même et rappeler aux autres le chant de l'armée céleste au moment de la naissance du Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Luc 2, 14. Inquiète de la tournure que prenaient les événements de Zurich, se rapprochait de quelques villes qui partageaient ses vues et formant avec elles ce qu'ils appelaient la combourgeoisie chrétienne, qui, il faut le dire, ne portait nulle atteinte à la sécurité de la Confédération ni au lien fédéral. C'était une ligue purement défensive. Peu de temps après, les cantons catholiques trahissaient positivement la Suisse en s'alliant avec son ennemi le plus acharné, le duc d'Autriche. Ceci ne fit qu'accentuer la tension des esprits. N'importe quel incident, le plus futile, pouvait déclencher un conflit à main armée. Il ne tarda pas à se produire. Un pasteur zurichois, Kaiser, homme tout à fait pieux, courageux et intègre, avait prêché l'Évangile dans une localité située sur le territoire suisse. Arrêté, on le traduisit devant le tribunal qui le condamna à être brûlé vif. Zurich intervint énergiquement en faveur de son ressortissant. Rien n'y fit et la sentence fut exécutée. Devant cet outrage, Zurich ne se contint plus. Son armée se composait d'hommes valeureux, prenant au sérieux la réforme et imbus des principes moraux prêchés par Zwingli. On n'entendait dans le camp ni jurement, ni mauvais propos, pas de jeu d'hasard. Chaque matin, un service religieux se célébrait. Zwingli se trouvait dans les rangs, la hallebarde sur l'épaule. Le conseil avait voulu le dispenser d'accompagner sa bannière, mais il refusa de s'affranchir de ce qu'il considérait comme son devoir. L'armée s'avança jusqu'à Cappel, à l'extrême frontière du canton de Zurich, où les catholiques avaient établi leur camp. Au moment où le combat allait s'engager, le Landammann, qui s'appelait Abli de Glaris, arriva et interposa sa médiation. « Zurichois, s'écria-t-il, ne croyez pas surprendre les cinq cantons, ils sont prêts à vous recevoir. Évitez, pour l'amour de Dieu, de détruire la vieille confédération. » Zwingli lui répondit, et l'on voit par cette réponse combien son esprit était aveuglé, puisqu'il n'était plus apte à apprécier l'effort tenté pour ramener la paix. « Landammann, mon compère, tu rendras compte à Dieu de tout ceci. Nos ennemis se voient dans le sac, et c'est pourquoi ils nous donnent de bonnes paroles. Quand ils seront en force, ils ne nous épargneront pas. » À quoi Abli répliqua, « Mon cher Ulrich, Dieu tient compte de bonnes intentions. Ayez confiance dans le Seigneur et tout ira pour le mieux. Il n'est pas difficile de déterminer lequel des deux interlocuteurs était animé d'un esprit vraiment chrétien. Abli avait la réputation d'être un homme de bien. Dans son canton, déjà, il avait réussi à opérer une réconciliation entre les parties. Son appel généreux fut entendu. Et l'on conclut un armistice qui fut suivi bientôt par un traité de paix. On en vint à l'arrangement suivant. Liberté de conscience et de culte dans toute la Confédération. Annulation de l'alliance avec l'Autriche. Suppression du service militaire étranger. Indemnité aux enfants du pasteur Kaiser. Plus d'actes de violence, ni d'une part, ni de l'autre. Telle fut cette paix. Dite paix de religion, imposée aux catholiques et fortement marquée de la politique de Zwingli, mais nullement de sentiments chrétiens. Elle entraîna des conséquences lamentables. La haine subsistait en effet dans les cœurs, comme cela arrive toujours lorsqu'on ne se juge pas devant Dieu avant d'imputer au prochain les fautes qu'il peut avoir commises. D'un côté, on estimait avoir trop cédé. De l'autre, on regrettait de n'avoir pas obtenu davantage. Zwingli passait par des jours très douloureux, triste résultat de la position mondaine qu'il avait prise et qui avait fait naître dans son cœur des sentiments déshonorants pour le Seigneur. de tous les côtés. Il recevait des reproches amers. On le dépeignait comme l'auteur responsable des dissensions et quand il plaidait la cause des victimes des persécutions, on l'accusait de porter atteinte aux droits des persécuteurs. D'un autre côté, ses énergiques prédications contre les vices du peuple et des citoyens fortunés indisposaient beaucoup d'esprit. Il disait bien « Nous ne devons mettre notre confiance qu'en Dieu seul », mais il ajoutait « Puisque notre cause est juste, il faut la défendre et, comme Josué et Gédéon, savoir verser notre sang pour Dieu et pour notre patrie. » Il connaissait donc totalement qu'il avait à servir le prince de paix, qui a dit de ses serviteurs qu'ils ne doivent pas contester, mais être doux envers tous, propres à enseigner, animés de support, attendant vis-à-vis de ceux qui leur résistent, de voir si Dieu ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Au cours du printemps de 1531, les affaires intérieures de la Confédération prirent une tournure plutôt fâcheuse. Dans les deux camps, une haine implacable animait les esprits. Un observateur de sang-froid, Bullinger, ne pouvait s'empêcher d'écrire. C'était un mépris, des insultes, des outrages criminels en beaucoup d'endroits et chez beaucoup de gens. Les prédicateurs papistes appelaient ceux des villes, hérétiques, voleurs de calice, assassins des âmes. Les évangéliques nommaient les papistes trafiquants de messe, idolâtres et gens impies, et traitaient ceux qui recevaient des pensions de l'étranger de dévoreurs d'écus, de marchands de chair et de buveurs de sang. Tous les jours, on inventait de nouveaux outrages. C'était un spectacle affligeant et humiliant tout à la fois, de voir combien ceux qui avaient appris à connaître le Seigneur peu d'années auparavant s'étaient promptement détournés des choses qui leur avaient été révélées et de constater avec quelle facilité le vieil homme reprenait le dessus. Zwingli déplorait grandement cette disposition lamentable, mais ne semble guère avoir compris sa grosse part de responsabilité dans leur épanouissement. Convaincu que la Suisse couvait de graves dangers, il persuada les Uriquois de reprendre les armes. Mais les Bernois temporisaient, désireux d'éviter la guerre civile, et proposèrent d'amener les petits cantons à récipiscence en leur imposant le blocus économique, c'est-à-dire qu'on leur ferma les marchés de Zurich, les seuls où ils puissent s'approvisionner avec quelques commodités. En effet, ces populations alpestres, entièrement vouées à l'élevage du bétail, dépendaient de la ville pour les besoins de leur vie courante. Du coup, ils se virent privés de blé, de sel, d'outils. C'était pour eux la famine à brève échéance. Éventualité d'autant plus redoutable que les maigres réserves qu'ils n'avaient pu faire sur les approvisionnements de l'année précédente étaient épuisées du fait que les récoltes avaient manqué. Les commerçants de Zurich en pâtissaient aussi car ils perdaient de nombreux clients. Zwingli lui-même désapprouvait nettement cette mesure. Quand on a, disait-il, le droit d'affamer ses adversaires, on a celui de les combattre, et si, par faiblesse, on ne les attaque pas, ce sont eux qui prendront les armes avec le courage du désespoir. On regrette de ne pas entendre le réformateur user d'autres arguments pour blâmer ce qui se passait. La parole de Dieu lui en aurait fourni de péremptoires. Du reste, sa position devenait de plus en plus difficile. Comme pasteur, il jouissait de l'estime de tous les gens de bien. Tant qu'il se tenait sur le terrain de l'Évangile, aucune critique ne l'atteignait. Sa connaissance de la parole de Dieu, le zèle qu'il mettait à l'annoncer, à la défendre, lui valait tous les suffrages. Mais le rôle politique qu'il assumait lui aliéna bien des cœurs, même parmi ceux qui, eux, étaient heureux de le soutenir jusqu'au bout. Il voyait le témoignage chrétien très sérieusement compromis. Zwingli sentit qu'il ne jouissait plus de la confiance générale et se présenta devant le conseil, demandant à être relevé de ses fonctions. Malheureusement, après avoir énuméré les motifs d'ordre spirituel qui l'engageaient à se retirer, il en ajouta d'autres qui touchaient à la politique. On refusait de suivre ses avis. Il devait donc chercher sa voie ailleurs. Le conseil fut consterné. On insista fortement auprès du réformateur et au bout de quelques jours, il revint sur sa décision, repoussant ainsi l'occasion que Dieu avait placée devant lui pour se dégager des liens matériels qui l'enlaçaient. Sentant néanmoins que quelque chose s'était brisé dans sa carrière, il avait perdu son élan et pressentait une catastrophe sans savoir au juste d'où elle viendrait. « Une chaîne est préparée, disait-il. Elle m'est destinée, ainsi qu'à beaucoup de braves citoyens de Zurich. C'est à moi qu'on en veut. Je suis prêt et soumis à la volonté de Dieu. Dieu n'en gardera pas moins sa parole. L'orgueil des hommes aura sa fin. Que Dieu garde les siens. » Pendant ce temps, les catholiques poussaient activement leurs préparatifs de guerre afin de surprendre les Zurichois qui, on le savait, hésitaient encore sur le parti à prendre. Le 9 octobre 1531, 3000 hommes de Wallstatten entrèrent en campagne dans le but de couper les communications entre Zurich et Berne. Pris au dépourvu, les magistrats de Zurich lancèrent l'ordre de mobilisation. La moitié des hommes à peine y répondirent. Ils partirent en désordre. Zwingli les accompagnait en qualité d'aumônier. Le surlendemain, la bataille s'engagea de nouveau à Cappel. Zwingli tomba, une des premières victimes de cet horrible choc fratricide. Une pierre le frappa à la tête au moment où il se penchait sur un mourant. La blessure n'était pas mortelle. Zwingli restait étourdi, mais quand il chercha à se relever, il reçut plusieurs coups de sabre sans être reconnu du reste. Un homme qui se trouvait près de lui l'entendit murmurer faiblement « Quelle calamité nous atteint! Ils pourront tuer le corps, mais ils ne tueront pas l'âme. » Ce furent ses dernières paroles. Lorsque les vainqueurs parcoururent le champ de bataille, ils le trouvèrent étendu sous un arbre et respirant encore. On lui offrit un confesseur. D'un signe de tête énergique, le mourant refusa. À ce moment, la lueur d'un feu tout proche éclaira son visage. Un homme s'écria « Mais c'est Zwingli !» D'un coup d'épée, un officier l'acheva. Ainsi s'accomplit cette parole de Jésus. « Tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, 52. Le corps du réformateur fut transporté à Lucerne, où le bourreau le livra aux flammes, puis dispersa les cendres aux quatre vents. Alors, on a une note, on voit encore au Musée national de Zurich le casque de Zwingli. Et il porte la trace très importante du coup formidable qui lui fut asséné. On ne saurait dépeindre la consternation qui envahit la ville de Zurich à la nouvelle de cette journée funeste. Elle y perdit plus de 500 morts, parmi lesquels se trouvaient 26 magistrats, l'élite du Petit Conseil et 25 ecclésiastiques. Anna Zwingli ne pleurait pas seulement la mort de son mari, mais encore celle de son fils aîné, né de son premier mariage, de son gendre, de son frère, de son beau-frère. Très certainement, Ulrich Zwingli occupe une place éminente à côté des plus grands réformateurs. Doué d'une rare intelligence, homme d'une foi vivante, il avait saisi l'Évangile avec l'énergie propre aux montagnards parmi lesquels il avait vu le jour et mit une confiance inébranlable dans la puissance de Dieu pour faire triompher la sainte doctrine. Il ne connut pas les angoisses morales et spirituelles par lesquelles passa Luther. Le travail qui se fit dans son cœur suivit une allure plus lente, plus régulière, mais non moins réelle. À mesure que l'Esprit de Dieu lui révélait les différentes vérités contenues dans la Bible, il en découvrait, grâce à son intelligence très lucide, la merveilleuse coordination. À ses yeux, la doctrine chrétienne présentait un aspect parfaitement cohérent, dont il contemplait l'ensemble tout aussi bien qu'il en discernait jusque dans les détails les différentes parties. Grâce à son indépendance de caractère il s'affranchit plus facilement et plus radicalement que Luther des superstitions romaines. À entendre les témoignages que lui rendirent ses auditeurs, il excellait dans les explications bibliques, limpides, sobres, très solides, car il n'énonçait pas une affirmation sans la contrôler par l'Écriture elle-même. C'est pourquoi on s'afflige d'autant plus de voir ce chrétien si qualifié, si éclairé, qu'on avait reçu du Seigneur tant de dons et de si riches connaissances, prendre l'attitude que l'on sait vis-à-vis du parti adverse. Moins semble-t-il à cause des doctrines perverses qu'il fallait combattre, parce que tous les catholiques recouraient aux outrages et aux persécutions. Ici encore, pourtant, la parole de Dieu lui indiquait la conduite à tenir. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous et tressaillez de joie car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, versets 11 et 12. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Romains 12, 19 et 20. On peut se demander ce que Zwingli, enlevé à l'âge de 47 ans, aurait pu être s'il avait mis entièrement au service du Seigneur les qualités brillantes dont il était investi, s'il était resté fidèle au ministère que Dieu lui avait confié. De cette vie en partie gaspillée, il ressort une leçon que chacun doit retenir et que Paul résume en ces termes. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 5. Trois applications pour terminer. Nous ne méditerons jamais assez ces paroles de Christ qui nous dit de ne pas prendre les armes pour défendre la cause de Christ. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Deuxième application, apprenons que le meilleur des hommes a ses faiblesses et qu'il peut errer dans les choses spirituelles. Troisièmement, voyons l'influence du malin agir sur les esprits qui lui appartiennent pour arrêter la progression de la lumière et de la vérité. Soyons assurés que s'il agissait alors, il continue de le faire de nos jours. Utilisons les armes de la confiance en Dieu, de la prière et de la connaissance et obéissance aux Saintes Écritures pour vaincre. Que le Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa souveraineté dans l'histoire de l'Église. Amen.
C'est une histoire.